Voilà, le président de la République qui s'apprête. Le président de la République va s'exprimer depuis le palais de l'Élysée. On l'écoute.
Françaises, Français, mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, je tenais, en cet automne 2021, à revenir vers vous pour répondre aux interrogations, parfois aux inquiétudes qui sont les vôtres, sur notre situation sanitaire, économique, sociale et géopolitique. Depuis près de 2 ans, nous sommes confrontés à une pandémie exceptionnelle. Nous avons tous ensemble tenu, et je le crois, fait à chaque étape des choix collectifs indispensables pour protéger chacun d'entre nous et pour nous protéger comme nation. Nos décisions se sont toujours fondées sur la connaissance scientifique, sur l'impératif de nous protéger, sur la volonté d'agir de manière proportionnée et sur la conviction que la responsabilité individuelle et collective sont notre première force. C'est cela qui nous a conduit à décider à 2 reprises d'un confinement, quand il le fallait, au printemps puis à l'automne 2020. Ensuite, à tenir bon, avec un couvre-feu et des règles adaptées à chaque territoire au début de cette année 2021, alors que beaucoup de nos voisins fermaient tout. Nous avons, depuis le début de cette année 2021, pu disposer de vaccins, en acheter puis en produire. L'Union européenne a ainsi produit plus de 2 milliards de doses de vaccins durant cette année, soit plus qu'aucune autre puissance du monde. S'agissant de la France, depuis la première vaccination en décembre 2020, nous avons injecté en 10 mois plus de 100 millions de doses. 51 millions d'entre vous sont aujourd'hui complètement vaccinés, ce qui fait de nous l'un des pays du monde les mieux protégés. Grâce au pass sanitaire et à la stratégie mise en œuvre depuis le mois de juillet dernier, nous sommes parvenus à maîtriser l'épidémie. En rappelant ces choix et nos résultats, j'ai en cet instant une pensée à la fois respectueuse et émue pour tous nos compatriotes qui ont disparu et pour leurs familles. Et je veux à nouveau remercier nos soignants, nos volontaires, nos associations, toutes celles et ceux qui ont contribué à tous ces efforts. Pour autant, nous n'en avons pas terminé avec la pandémie. D'abord, parce que des dizaines de milliers de nos compatriotes sont touchés par ce qu'on appelle le Covid long, dont les symptômes qui sont la perte de goût, d'odorat, l'épuisement, la dégradation de la santé mentale, font l'objet d'une prise en charge spécifique. Ensuite, parce que nous le savons, il nous faudra vivre avec le virus et ses variants jusqu'à ce que la population mondiale dans son ensemble soit immunisée. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, dès le début de la pandémie, la France s'est engagée pour donner des doses aux pays les plus pauvres et les pays en voie de développement. Nous sommes au rendez-vous de cette solidarité internationale et nous continuerons de le faire. Nous n'en avons pas terminé parce qu'à court terme, l'Organisation mondiale de la santé le dit, la 5e vague a commencé en Europe. Au Royaume-Uni et en Allemagne, plus de 30 000 nouveaux cas supplémentaires sont enregistrés chaque jour. Et si, grâce à vos efforts, la situation en France est plus favorable, l'augmentation de 40% en une semaine de notre taux d'incidence et la remontée des hospitalisations sont des signaux d'alerte. De même que la situation dans certains territoires d'outre-mer, où la vaccination demeure encore insuffisante dans bien des cas et qui ont beaucoup souffert ces derniers mois. Je veux ici leur dire à nouveau la solidarité nationale et leur dire que tout continuera d'être fait comme depuis le début de la crise. Tout cela doit nous conduire à la plus grande vigilance et nous pousser à agir. Parce que nous avons fait le nécessaire pour nous protéger, nous pouvons continuer à maîtriser la situation si chacun d'entre nous prend sa part. Mon premier message est ainsi un appel. Un appel à l'esprit de responsabilité des 6 millions d'entre vous qui n'ont encore reçu aucune dose de vaccin. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour vous protéger. La vaccination est ouverte à tous, sauf aux enfants de moins de 12 ans. Je rappelle qu'une personne vaccinée a 11 fois moins de chances de se retrouver à l'hôpital, en soins critiques. Je rappelle aussi que des milliards d'individus sur la planète ont déjà eu le vaccin et que nous avons maintenant déjà un certain recul. Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement. Avec le vaccin, il vous sera possible d'obtenir un pass sanitaire et ainsi de vous rendre librement dans les cafés, les restaurants, les lieux de culture, de sport, de loisirs, sans test PCR. Être libre dans une nation comme la France implique d'être responsable et solidaire. Je compte donc sur vous. Face au regain de l'épidémie, les plus vulnérables sont nos aînés et ceux qui souffrent d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires ou de diabète sévère. Toutes les études montrent en effet que 6 mois après le vaccin, l'immunité diminue et donc que le risque de développer une forme grave réaugmente. La solution à cette baisse d'immunité est l'injection d'une dose de vaccin supplémentaire, ce qu'on appelle le rappel. Une campagne a été lancée depuis la fin de l'été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles. Il nous faut aujourd'hui l'accélérer. Si vous avez été vacciné il y a plus de 6 mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant auprès d'un centre de vaccination, de votre médecin ou de votre pharmacien. Il est possible de faire ce rappel en même temps que le vaccin contre la grippe. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre pass sanitaire. Les personnes qui ont moins de 65 ans voient aussi la protection conférée par le vaccin diminuer au fil du temps. D'ailleurs, au moment où je vous parle, plus de 80% des personnes en réanimation ont plus de 50 ans. C'est pourquoi une campagne de rappel sera lancée à partir du début du mois de décembre pour nos compatriotes âgés de 50 à 64 ans. Nous avons saisi les autorités scientifiques afin qu'elles puissent nous indiquer dans les tout prochains jours les modalités pratiques et les échéances à suivre. De la même manière que nous avions d'ailleurs organisé, vous vous en souvenez sans doute, durant le premier semestre, la campagne de vaccination. Le vaccin, pour efficace soit-il, ne suffit pas. Dans ce contexte de reprise épidémique, il nous faut en même temps redoubler de vigilance. Tous les assouplissements, à un moment envisagé, seront donc reportés pour conserver les règles actuellement en vigueur. Même si je sais combien cela est difficile, le port du masque à l'école sera donc pour le moment maintenu. L'application des gestes barrières, qui protègent autant contre le Covid-19 que contre les maladies contagieuses de l'hiver, doit aussi faire l'objet d'une attention accrue. Nous avions tous un peu relâché nos efforts, et c'est bien normal. Il faut donc les reprendre. Les contrôles pour l'application du pass sanitaire dans les établissements concernés et pour les entrées dans les ports, les aéroports, les gares seront renforcés. Et nous continuerons, comme nous avons toujours fait, à adapter nos décisions territoire par territoire en fonction de l'évolution de l'épidémie. C'est donc grâce à la vaccination, au pass sanitaire, aux gestes barrières que nous pourrons continuer de vivre, ne pas restreindre d'autres libertés et ne pas refermer des activités. Enfin, c'est parce que la France a très tôt misé sur la recherche sur les traitements et que nous avons su en commander très en amont que nous bénéficierons d'une nouvelle arme pour lutter contre le virus avec l'arrivée dès la fin de l'année des premiers traitements réellement efficaces contre les formes graves de Covid-19. Durant toute cette période, notre nation s'est toujours attachée à protéger chacun d'entre nous sur le plan éducatif, économique et social. Nos enfants, nous avons été l'un des pays du monde qui a le plus ouvert ses écoles. Nos jeunes, nous avons accompagné les étudiants avec le repas à 1 € et des aides spécifiques pour les boursiers. Les plus précaires, grâce à une politique d'hébergement social inédite et aux aides exceptionnelles versées, nous avons évité à près d'un demi-million de nos compatriotes de basculer dans la pauvreté. Nos artistes, artisans, indépendants, salariés, entrepreneurs ont été accompagnés avec le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, le fonds de solidarité et de nombreuses aides sectorielles. Nous continuons et continuerons d'adapter nos réponses en fonction des besoins. C'est pourquoi, par exemple, les prêts garantis par l'État seront prolongés jusqu'en juin 2022. Nous avons aussi soutenu nos soignants. Nos soignants qui ont tant donné durant la crise et éprouvent aujourd'hui une légitime fatigue. Ils ont été augmentés de 200 à 400 euros nets par mois en moyenne. 500 établissements hospitaliers vont être restaurés. Des milliers de maisons de retraite rénovées grâce à un effort sans précédent de 19 milliards d'investissements partout sur le territoire. Ces mesures, qui s'ajoutent à beaucoup d'autres, comme la fin du numerus clausus pour les médecins ou l'augmentation du nombre de postes d'infirmiers, font que jamais, depuis la création de la Sécurité sociale, nous n'avions autant investi dans la santé. Il le fallait. Il le fallait après des décennies d'abandon, de sous-investissement. Mais il reste, je le sais, encore beaucoup à faire. Cette stratégie du quoi qu'il en coûte, couplée aux 100 milliards du plan de relance que nous avons décidé grâce à notre initiative européenne, non seulement nous a permis de résister à la crise, mais de rebondir plus fort aujourd'hui. Notre croissance dépasse les 6%. La France est en tête des grandes économies européennes. Le chômage est au plus bas depuis près de 15 ans. Et nous sommes l'un des seuls pays du monde où le pouvoir d'achat a continué à progresser en moyenne et où la pauvreté n'a pas augmenté. Nous avons réussi tout cela en maîtrisant nos dépenses publiques, puisque notre déficit sera inférieur à 5% de notre produit intérieur brut dès cette année. Tout cela, c'est le fruit de nos choix collectifs. Et c'est aujourd'hui encore que nous devons prendre de nouvelles décisions pour rester maîtres de nos vies comme citoyens et maîtres de notre destin comme nation pour les années qui viennent. Oui, parce que nous avons devant nous une forme d'accélération du monde, des grandes décisions qui sont à prendre. D'une part, notre situation économique reste toujours à consolider. Dans un monde où les tensions sur les approvisionnements et les coûts des matières premières et de l'énergie génèrent pénurie et inflation. Je sais que beaucoup d'entre vous le vivent. D'autre part, parce que nous ne devons pas viser seulement 7% de chômage, mais bien le plein emploi. Nous sommes en train progressivement tous ensemble de réussir, de faire en sorte que chaque Française, chaque Français puisse par son travail construire sa vie, mener à bien ses projets. Notre économie crée des emplois comme jamais, au point que dans des secteurs comme la restauration, les bâtiments travaux publics, les services, l'artisanat ou l'industrie, tous les entrepreneurs me disent peinés à recruter aujourd'hui. Au moment où 3 millions de nos compatriotes se trouvent encore au chômage, cette situation heurte le bon sens. Pour la dépasser, pour faire en sorte que toutes les offres d'emploi soient pourvues, nous devons agir sur tous les fronts. Depuis 4 ans, le travail paye mieux. Avec l'augmentation de la prime d'activité de 100 euros au niveau du SMIC, avec la défiscalisation des heures supplémentaires et des pourboires, avec les baisses d'impôts inédites. Par rapport au début du quinquennat, c'est au minimum 170 euros de pouvoir d'achat par mois en plus pour les bas salaires. Il faudra dans les années à venir poursuivre ces choix et financer notre modèle social en taxant moins le travail, encore. Nous avons aussi beaucoup formé. Avec 15 milliards d'euros mobilisés depuis 2017, jamais autant de moyens n'avaient été engagés pour la montée en compétences des moins diplômés et des demandeurs d'emploi. Pour notre jeunesse aussi, nous avons déployé un effort spécifique avec la réforme de l'apprentissage et de l'alternance, atteignant en ce moment même des chiffres records et grâce au plan « Un jeune, une solution ». Nous avons aidé 3 millions de jeunes à trouver une formation ou un emploi ou un accompagnement. Ce qui fait qu'au moment où je vous parle, le taux de chômage pour les jeunes est au plus bas depuis plus de 15 ans. Pour les 500 000 jeunes sans emploi et les moins qualifiés, j'ai annoncé dans la lignée de ce que je vous avais dit le 12 juillet dernier, le lancement pour le 1er mars prochain du contrat engagement jeune. Un contrat et non un revenu, parce qu'au droit que nous ouvrons, à savoir 20 heures de suivi intensif, une allocation pouvant aller jusqu'à 500 euros, correspondent des devoirs, un devoir d'assiduité, devoir de suivre les formations proposées et de s'engager pleinement. Plus largement, pour que le travail permette de vivre dignement et paie toujours davantage que l'inactivité, nous conduisons en ce moment même une indispensable réforme de l'assurance chômage. Depuis un mois, les règles ont commencé à changer pour rendre la reprise du travail plus attractive dans tous les cas. Et à partir du 1er décembre de cette année, une nouvelle étape va s'engager. Il faudra avoir travaillé au moins 6 mois dans les 2 dernières années pour pouvoir être indemnisé. Alors qu'aujourd'hui, les droits au chômage sont ouverts au bout de 4 mois de travail. Enfin, Pôle emploi passera en revue les centaines de milliers d'offres d'emploi disponibles sans réponse dès les prochaines semaines. Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues. Le 12 juillet dernier, j'avais évoqué devant vous la nécessaire réforme des retraites. La situation sanitaire que nous vivons et qui est en train de se dégrader partout en Europe, le souhait unanime exprimé par les organisations syndicales et professionnelles de concentrer les efforts sur la reprise, le besoin de concorde dans ce moment que vit notre nation, font que les conditions ne sont pas réunies pour relancer aujourd'hui ce chantier. Pour autant, notre volonté de sauver notre modèle par répartition et d'en corriger les inégalités n'a pas changé. Ce 1er novembre, la retraite minimale pour les agriculteurs, qui est attendue depuis si longtemps, est entrée en vigueur. Et dès 2022, il faudra, pour préserver les pensions de nos retraités et la solidarité entre nos générations, prendre des décisions claires. Elles feront légitimement l'objet de débats démocratiques indispensables. Mais elles devront suivre, à mes yeux, des principes simples. Travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal. Aller vers un système plus juste en supprimant les régimes spéciaux, en harmonisant les règles entre public et privé et en faisant en sorte qu'au terme d'une carrière complète, aucune pension ne puisse être inférieure à 1 000 euros. Aller enfin vers plus de liberté, c'est-à-dire permettre de partir en retraite progressivement, d'accumuler des droits plus rapidement pour celles et ceux qui le souhaitent, d'encourager le travail au-delà de l'âge légal aussi pour celles et ceux qui en ont envie. La retraite ne doit être ni une contrainte ni une angoisse, mais un choix plus libre, plus simple, plus lisible. Aujourd'hui comme hier, vous le voyez, le travail continue donc d'être notre boussole, le fil rouge de notre action. Non seulement parce que, pour chacun d'entre nous, c'est le travail qui nous permet de créer des liens, d'augmenter notre pouvoir d'achat, de progresser tout simplement dans la vie en accédant à la propriété, en protégeant notre famille, nos proches, en concrétisant nos projets. Mais aussi parce que sur le plan collectif, le travail de tous est ce qui nous permet en tant que nation de faire nos choix et de garantir notre indépendance. C'est par le travail et par plus de travail que nous pourrons préserver notre modèle social, nos retraites, la prise en charge des malades, l'accompagnement des familles, la meilleure inclusion à l'école, au travail ou dans les structures adaptées pour les personnes en situation de handicap. C'est par le travail aussi que nous permettrons à nos aînés de vivre plus longtemps chez eux ou d'être accompagnés. Une cinquième branche de la sécurité sociale a été créée. Elle sera pleinement mise en œuvre dans les mois qui viennent. Et d'ici au 1er janvier, les professions du soin et de l'aide à domicile auront vu leur salaire revalorisé. Nous sommes en train collectivement, en ce moment même, malgré la pandémie, de construire pas à pas un véritable service public de l'autonomie pour nos aînés. Nous le finançons et le financerons par davantage de travail. C'est par le travail de tous que nous pourrons continuer de rendre notre État plus solide. Nous avons, depuis 2017, recruté 10 000 policiers et gendarmes. Nous avons substantiellement augmenté le budget de la justice, d'une manière inédite. Les résultats sont là. 36 attentats déjoués, la baisse d'un quart du nombre de cambriolages et de vols de véhicules, des saisies et des arrestations records en matière de trafic de drogue. Mais très clairement, nous sommes lucides sur le travail qui reste à faire. La violence est de retour dans toutes les sociétés occidentales et exige d'aller plus loin. Nous devons ainsi poursuivre et renforcer nos actions pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour mieux protéger nos enfants. Et dans le prolongement des travaux du Beauvau, une loi de programmation pour nos sécurités intérieures est en cours de discussion. Elle sera présentée au premier trimestre 2022 et donnera plus de moyens et allégera les contraintes bureaucratiques de nos forces de l'ordre. Nous avons aussi lancé les États généraux de la justice qui, réunissant tous les acteurs, déboucheront au printemps sur des mesures fortes, à la fois pour que la justice soit rendue plus vite et que les peines prononcées soient réellement exécutées. C'est par le travail de tous, enfin, que nous pourrons bâtir notre indépendance énergétique. Nous vivons chaque jour les conséquences de la situation actuelle. Le plein plus cher à la pompe, la facture de gaz et d'électricité qui augmente. Ce que nous vivons ces dernières semaines nécessite des réponses d'urgence. C'est pour cela d'ailleurs que le gouvernement a bloqué les prix du gaz. C'est aussi pour cela que ceux d'entre vous qui gagnaient moins de 2 000 euros net par mois à y recevoir une indemnité inflation exceptionnelle de 100 euros. Mais si nous voulons payer notre énergie à des tarifs raisonnables et ne pas dépendre de l'étranger, il nous faut tout à la fois continuer d'économiser l'énergie et d'investir dans la production d'énergie décarbonée sur notre sol. C'est pourquoi, pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables. Ces investissements nous permettront d'être à la hauteur de nos engagements. Au moment où nous allons clôturer la COP26 à Glasgow, c'est un message fort de la France. Vous le voyez bien. Et nous le pressentons tous. Dès à présent, nous nous préparons à affronter les défis de l'avenir. Car nous vivons une révolution profonde. Avec la pandémie, nous avons éprouvé notre vulnérabilité. Ce virus, soudain, a bloqué le monde entier. Nous avons redécouvert notre dépendance vis-à-vis de l'étranger, y compris pour des produits de première nécessité, des masques, le paracétamol ou d'autres. Nous avons réappris avec le vaccin que l'innovation pouvait tout changer, et parfois en quelques mois, avec une rapidité inédite. En même temps, les grands enjeux d'avant la crise n'ont pas disparu. La protection de la planète, le défi démographique, le vieillissement, la montée des inégalités. Nous avons donc, d'une manière inédite, tant de décisions à prendre en même temps, tant d'investissements historiques à faire. Pour relever tous ces défis, pour maîtriser notre destin, le marché seul ne suffit pas. Il faut assumer une intervention publique forte, avec, dans quelques domaines clés, des investissements importants. Des investissements de la nation, des investissements aussi de l'Europe. C'est pour cela que j'ai lancé le plan France 2030, doté de 30 milliards d'euros sur 5 ans, pour investir dans 10 secteurs très porteurs d'avenir, comme la décarbonation de l'industrie, le véhicule électrique, l'avion zéro carbone, ou encore la culture, la santé, le spatial ou le maritime, pour éduquer et former nos jeunes dans ces métiers d'avenir, pour sécuriser en France la production de composants et de technologies essentielles comme les semi-conducteurs, la robotique ou le cyber. Notre objectif est clair, que les produits et les technologies qui feront l'économie, les emplois et en quelque sorte les vies de 2030 ne viennent pas seulement des États-Unis ou d'Asie, mais bien aussi de France et d'Europe. Certains pensent ce rêve inatteignable. Je crois tout le contraire. Je crois que cela relève même de l'ambition faisable, du volontarisme lucide, si aujourd'hui nous continuons de mener les réformes, les transformations et si nous investissons. Oui, la France a les moyens de conforter ses positions de grande puissance, éducative, industrielle, agricole, d'innover, de créer et produire en tenant nos objectifs climatiques et de biodiversité. Si nous investissons, si nous levons les freins à l'action, les complexités inutiles et les corporatismes. Mais la France ne sera pas forte seule. Les enjeux sont tels dans le choc des puissances continentales qui se déploient sous nos yeux que seule une entente européenne, solidaire et volontaire, peut apporter à chacun de nos pays européens un relais et une force de frappe. Il suffit d'ouvrir les yeux pour mesurer combien nos intérêts se rencontrent et s'accordent. C'est dans ce contexte du choc des puissances américaines, chinoises, russes et de déstabilisation de nombreuses zones du monde que notre pays aura, dans 2 mois, la charge de présider l'Union européenne. Car les orientations de l'Union ne sont pas lointaines ou évanescentes. Elles sont même la trame de nos vies et des années qui viennent. Sans l'Union européenne, nous n'aurions pas si vite disposé du vaccin. Nos partenaires ne sont pas des étrangers. Sur ce continent qui nous a été donné par le destin, ils sont confrontés aux mêmes vagues, aux mêmes orages que ceux que nous rencontrons. C'est donc avec eux que nous tâcherons, dans les prochains mois, de mieux affronter les défis qui sont les nôtres. Ensemble, de mieux protéger nos frontières extérieures, ensemble de continuer à rebâtir avec l'Afrique une relation de paix, de stabilité et de croissance. Ensemble de mieux réguler les géants du numérique. Ensemble de bâtir une stratégie crédible de réduction de nos émissions de CO2 compatible avec notre souveraineté industrielle, technologique. Ce nouveau modèle d'investissement et de croissance auquel je crois pour la France et pour l'Union européenne est celui que je défendrai en votre nom dès janvier prochain en prenant la présidence de l'Union. Mes chers compatriotes, nous avons surmonté ensemble ces derniers mois une conjonction inédite de crises. La pandémie, ses conséquences, le terrorisme, les désordres géopolitiques et j'en passe. J'ai tâché à la cavalcade de retranscrire tout ce que nous sommes en train de faire et ce qu'il convient de conduire pour les mois à venir. Mais durant tous ces mois, nous sommes restés soudés, fidèles à ce que nous sommes, profondément humains. Alors je vois bien, je sens bien, j'entends bien l'incertitude, les doutes, parfois la fatigue, quelquefois la colère quand je viens à votre rencontre qui se manifeste. La période est difficile, pour beaucoup d'entre vous, angoissante. Mais regardez ce que nous avons réussi durant ces derniers mois, en agissant ensemble, unis. Nous avons réussi l'impensable. Alors je vous le dis avec beaucoup de conviction, n'ayons pas peur. Croyons en nous, croyons en la France. En une France qui reste elle-même, forte de son histoire, de sa culture, de sa langue, de sa laïcité, de ce qui l'unit. Forte de son esprit de résistance à la dilution dans un monde qui va, à la soumission, aux dogmes, aux obscurantismes, au retour du nationalisme. Forte de sa volonté d'embrasser l'avenir et de continuer d'assumer sa part d'universel. Croyons en nous. Nous le méritons. Vive la République et vive la France.
Europe 1. Alexandre Lemaire.
Voilà, vous venez d'entendre l'intervention d'Emmanuel Macron depuis l'Élysée, la 9e depuis le début de la crise de Covid. On va revenir très en détail jusqu'à 21h avec la rédaction d'Europe 1 sur les nombreuses annonces du président de la République. 27 minutes d'allocution, dont à peine plus de 2 minutes consacrées finalement au Covid et des annonces assez fortes. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1, concernant notamment la réforme du chômage.
Oui, on peut parler d'une annonce choc, c'est-à-dire que le président de la République a dit que ceux qui ne cherchent pas assez de travail verront leurs allocations suspendues. Ça existe déjà aujourd'hui, mais c'est rarement aussi clairement exprimé. Et là, on sent que ça va aller sûrement beaucoup plus loin que ce que la loi prévoyait jusque-là. Et puis aussi, un message très important sur la réforme des retraites. Il va y avoir une réforme des retraites un peu à la carte. C'est un message très important. On pourra décider, semble-t-il, de cotiser plus pour pouvoir partir peut-être plus tôt à la retraite. En tout cas, une réforme nouvelle qui vient d'être esquissée, sans qu'on sache quand est-ce qu'elle est lancée.
Autre annonce présidentielle, Emmanuel, sur laquelle on va revenir dans un instant, la relance de la construction de réacteurs nucléaires.
Oui, alors là, on l'attendait, on pensait que le président le ferait à l'occasion d'un déplacement plutôt en région, mais c'est fait. Attention, il n'a pas donné le nombre d'EPR qu'il souhaitait lancer. On pense que c'est 6 et c'est extrêmement symbolique. C'est-à-dire que quand tout le monde se réfère en ce moment au général de Gaulle dans la campagne, c'est le général de Gaulle qui avait lancé le nucléaire.
Avec moi dans le studio d'Europe 1, Louis Dragnel, Céline Géraud et Emmanuel Dutheil. On revient dans un très court instant pour revoir en détail toutes ces annonces du président de la République. A tout de suite.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
Bienvenue sur Europe 1, 20h33. Vous avez probablement entendu avec nous l'allocution présidentielle, le discours d'Emmanuel Macron pendant un peu plus de 27 minutes depuis l'Elysée, sa neuvième intervention depuis le début de la crise du Covid. Avec moi dans ce studio, Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Céline Géraud, chef du service société. Céline, bonsoir.
Bonsoir Alexandre.
Et Emmanuel Dutheil, chef du service économie sur Europe 1. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Un petit tour d'horizon d'abord avec vous, Louis, des annonces d'Emmanuel Macron. Bien évidemment, le propos initial, c'était de revenir sur la crise sanitaire, de faire des annonces sur le front sanitaire, mais pas seulement, Louis, loin de là.
Absolument, non, mais vous l'avez très bien dit. On a presque oublié en fait qu'il s'agissait d'une allocution présidentielle pour parler quand même des mesures sanitaires. Alors on va quand même les rappeler très simplement. Le président a quand même rappelé, nous n'en avons pas terminé avec l'épidémie. Il a lancé un appel à deux reprises aux 6 millions de Français qui ne sont pas encore vaccinés. Il l'a dit, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Et ensuite, effectivement, il a annoncé des annonces qu'on avait d'ailleurs évoquées ce matin ici même sur Europe 1 pour les plus de 65 ans, voilà, pour la troisième dose, en fait, pour pouvoir pour faire en sorte que leur passeport vaccinal soit encore valide après le 15 décembre, eh bien, ils devront obligatoirement avoir une troisième dose. Et puis, à partir du 1er décembre, eh bien, il y aura l'ouverture de cette troisième dose pour les 50 à 64 ans. Et pour les âges un peu inférieurs, en tout cas, le président ne sait pas encore, n'a pas détaillé en tout cas son programme, et on ne sait pas encore si des publics plus larges seront concernés ultérieurement pardon, par cette troisième dose. Mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est surtout le nouveau virage du quinquennat, c'est un nouvel acte que vient de dessiner Emmanuel Macron. Il a couvert un spectre de sujets extrêmement large, donc il y avait le sanitaire, on l'a dit, mais il y a eu tous les sujets économiques, il a parlé des métiers en tension, il a parlé de la réforme de l'assurance chômage, Emmanuel Dutheil en parlait tout à l'heure, il a parlé de la réforme des retraites, même si il explique que les conditions ne sont pas réunies pour le moment. Il explique que cette réforme est nécessaire et quand on l'écoute, en fait, c'est avec à peu près les mêmes mots que ceux qu'il employait depuis le début de son quinquennat. Donc, il explique qu'il va falloir travailler plus longtemps. Il réitère sa volonté de supprimer les régimes spéciaux, d'aligner le privé sur le public. Ensuite, il a parlé même de sécurité, de justice. Il a parlé de la loi de programmation pour la sécurité intérieure. Il a rappelé les états généraux de la justice qu'il avait lancés. Ensuite, il a, comme l'a rappelé également Emmanuel Dutheil, il a parlé d'énergie, il a parlé de la relance des EPR, donc il a parlé du nucléaire, voilà, c'était un programme présidentiel
un
en
programme.
Fait.
Hein.
Il a parlé des investissements publics qui allaient se maintenir, notamment avec France 2030, des investissements qui allaient se maintenir pendant 5 ans, 5 ans de plus, voilà. Le suspense est presque irrésistible, mais je pense que tout le monde a compris. Ensuite, il a parlé de réindustrialisation du pays, de la présidence française de l'Union européenne qui va commencer en janvier prochain.
Dans deux mois,
et,
ouais.
Et puis, il a terminé sur une touche d'espoir. Il a expliqué qu'en fait, tous les Français avaient été formidables, qu'on avait réussi à faire ensemble, collectivement, quelque chose d'assez incroyable. Donc, c'est du Macron... quand il est très en forme, même s'il avait, il avait la voix un tout petit peu prise, un peu enrouée. Et voilà, tout ça pour vous dire que ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il manquait plus qu'une phrase, c'est « je suis candidat pour un deuxième mandat ». Il a dressé, il a balayé en fait tout son... Enfin, c'est un programme présidentiel avec un impact qui sera visible très rapidement. Ce sont clairement des mesures qui parlent à la droite. Le nucléaire sur les questions d'énergie, la sécurité, la justice, l'assurance chômage,
oui.
Le fait que les chômeurs qui refuseront un certain nombre de propositions ou qui manifesteront pas une recherche active d'emploi ne bénéficieront plus, ne toucheront plus d'indemnité chômage. Ça, pour le coup, c'est des mesures extrêmement fortes. Et donc, ça confirme un peu ce qu'on disait aussi sur cette antenne ouais. Depuis quelques jours. Au lendemain du débat de la primaire de la droite, eh bien, Emmanuel Macron veut parler à cet électorat, il le montre, et là, on a eu quand même 20 minutes quand même de programme sur des questions régaliennes, sur des, voilà, toutes ces questions qui parlent à la droite. Donc je pense que le message est très clair. Emmanuel Macron serait candidat pour un deuxième mandat, il ne l'a pas encore dit.
Il l'a pas encore dit.
Et voilà son programme, voilà les grandes lignes, voilà ce qu'il lui reste à faire et ce qu'il souhaite mener à bien.
Alors, vous avez dressé un panorama très complet des annonces du président ce soir. Louis, on va revenir sur les principales d'entre elles en détail. D'abord, c'était la justification première de l'intervention du président ce soir, la crise sanitaire, le front sanitaire. On va écouter Emmanuel Macron.
La solution à cette baisse d'immunité est l'injection d'une dose de vaccin supplémentaire, ce qu'on appelle le rappel. Une campagne a été lancée depuis la fin de l'été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles. Il nous faut aujourd'hui l'accélérer. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. Les personnes qui ont moins de 65 ans voient aussi la protection conférée par le vaccin diminuer au fil du temps. C'est pourquoi une campagne de rappel sera lancée à partir du début du mois de décembre pour nos compatriotes âgés de 50 à 64 ans.
Voilà, je me tourne vers vous, Céline Géraud, chef du service société d'Europe 1. Donc, C'était les annonces attendues d'Emmanuel Macron sur le devenir de la troisième dose, son élargissement, son intégration ou non au pass sanitaire. Et bien ce soir, on a la réponse. La troisième dose est bel et bien intégrée au pass sanitaire. Et de deux, cette administration de la troisième dose sera élargie aux 50-64 ans.
Absolument. Et il y avait un côté, je trouve, good cop, bad cop, hein, dans cette présentation, avec de temps en temps de bonnes nouvelles et puis derrière, un petit coup de serpe. Par exemple, il nous dit, on est en 10 mois, 100 millions de doses, 51 millions de Français vaccinés, c'est bien. 75% de la population, on le sait, vaccinée. Mais bad cop, plus de 40% du taux d'incidence en une semaine. Du coup, la validité du pass sanitaire qui est donc désormais conditionnée à cette troisième dose à partir du 15 décembre, vous l'avez dit. On le rappelle, il l'a dit d'ailleurs, qu'on pouvait faire la double vaccination grippe et Covid en même temps. Donc, il compte évidemment sur tous ces patients qui vont se faire vacciner contre la grippe pour en profiter, pour faire ce rappel. Aussi, il a précisé que les contrôles du pass sanitaire seraient renforcés dans les lieux publics. Il y a ce côté bad cop sur les relâchements qu'il a constaté.
On approche des fêtes de Noël, des réunions de famille.
Le retour de la bise, des poignées de main, les gestes barrières qui ne sont pas toujours respectés. On le rappelle, en matière de propreté, j'ai vu un sondage ce matin, IFOP, qui disait que 55% seulement des Français se lavent les mains en rentrant à la maison, contre 86% en mars dernier. Voilà, la bise, c'est pareil.
Une illustration du relâchement des gestes barrières.
Complètement. Donc on resserre la vis aussi, et c'était aussi en substance que le président voulait nous dire. Et puis cette grande campagne de rappel pour les 50-64 ans, primordiale. Pourquoi ? Parce qu'on s'en souvient, il y a quelques semaines, la semaine dernière, ils ont lancé une campagne de rappel pour les plus de 80 ans. Et c'est un petit peu moumou, hein, selon nos informations. Le numéro vert mis en place, la plateforme, les services de vaccination à domicile, ça met du temps à se mettre en place. On le rappelle, nos anciens, ils sont plus de 500 000 à ne pas être vaccinés encore aujourd'hui. Ça paraît dingue. Donc il y a quand même encore du boulot. Et on a bien compris que le président voulait faire passer les messages. Doctolib, complètement submergé depuis hier aussi. Je pense qu'à partir de ce soir, ça va être carrément... ils vont chauffer les serveurs du côté de Doctolib. Ils étaient à 98 000 demandes de rendez-vous pour cette troisième dose, rien que sur la journée d'hier. C'est colossal. Donc voilà. Il y a une prise de conscience des Français. Je pense qu'il a bien fait passer le message. Et c'est vrai que si on n'a pas ce rappel, évidemment, le pass sanitaire ne sera plus valable.
Vaccinez-vous, il l'a répété.
Voilà,
vaccinez-vous. Vous disiez, Céline, good cop, bad cop. Le message s'adresse aussi, il l'a dit, aux 6 millions de Français qui ne sont pas encore vaccinés.
C'est ça.
Et c'est à eux que cet appel présidentiel s'adresse en priorité.
Clairement. Et vous l'avez vu dans la forme aussi, hein, ce chapitrage, croire en la France, de nouvelles décisions. Voilà, on nous fait la messe quand même. Hein. Et moi, j'ai toujours ce côté, on a l'impression qu'on est à la messe et pendant 30 minutes, on écoute les conseils du grand chef Schtroumpf, hein, avec quelque chose de très solennel. Et en même temps, voilà, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt agréable à regarder. C'était fluide, il y avait plein de sujets abordés. Mais en tout cas, c'est vrai que sur ce secteur du sanitaire, voilà, le port du masque aussi qui reste pour les enfants maintenu à l'école, ça aussi, on s'y attendait. Voilà, c'est confirmé. Pour les enfants, ça va être compliqué jusqu'à Noël et sans doute jusqu'à l'été prochain.
Alors ça, ce n'était que le début de l'intervention du président. Ce n'était même que la minorité de son intervention ce soir, 27 minutes et même un peu plus. On va revenir dans un instant sur Europe 1, sur les autres annonces principales de ce soir, notamment concernant l'assurance chômage. Emmanuel Macron l'a dit, les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues. Emmanuel Macron qui annonce aussi la relance de la construction de réacteurs nucléaires en France à la poursuite de l'objectif neutralité carbone en 2050. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Alexandre Lemaire.
20h45 sur Europe 1, autour de moi dans ce studio, Céline Géraud, Louis Dragnel et Emmanuel Duteil pour commenter, revenir sur les annonces présidentielles, annonces détaillées ce soir par Emmanuel Macron depuis l'Elysée. On va entendre le président de la République qui annonce un durcissement des règles de l'indemnisation chômage à partir du 1er décembre prochain.
À partir du 1er décembre de cette année, une nouvelle étape va s'engager. Il faudra avoir travaillé au moins 6 mois dans les 2 dernières années pour pouvoir être indemnisé. Alors qu'aujourd'hui, les droits au chômage sont ouverts au bout de 4 mois de travail. Enfin, Pôle emploi passera en revue les centaines de milliers d'offres d'emploi disponibles sans réponse dès les prochaines semaines. Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues.
Voilà, allongement de la durée de travail nécessaire à l'indemnisation chômage, Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1, et suspension des allocations s'il n'est pas démontré que le demandeur d'emploi fait une recherche active d'emploi.
Oui, effectivement, c'est de la deuxième annonce qui est vraiment une annonce choc, puisque la première, c'était tout à fait connu, on savait que ça entrait au 1er décembre, mais c'est la réforme qui avait été négociée ces derniers mois. Concentrons-nous donc effectivement sur le deuxième point, et c'est un point très important parce que c'est né, semble-t-il, des rencontres du chef de l'État à l'occasion de ces déplacements. Un ministre nous confiait hier que, semble-t-il, beaucoup de gens sur le terrain lui disent « mais il y en a marre, pourquoi on a tant de demandeurs d'emploi et tant d'offres d'emploi non pourvues ?» Ça répond uniquement à cet énervement. Ajoutons que ça répond aussi au fait qu'on est en campagne présidentielle et que c'est un thème très cher à la droite. Mais si on se concentre sur le besoin, c'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers en tension, beaucoup d'artisans sont en grande difficulté de recrutement et que ça pénalise la reprise économique.
Donc, cette situation heurte le bon sens, dit Emmanuel
Exactement.
Macron.
Exactement. Et c'est un paradoxe français. Donc, ce n'est pas le premier à vouloir lutter contre, au point qu'il reprend une mesure qui existe déjà aujourd'hui. Si vous ne cherchez pas un emploi, si vous refusez des offres d'emploi, vous pouvez voir vos allocations suspendues un mois. On va voir le détail. Est-ce que les conditions vont être durcies? Est-ce qu'ils vont suspendre potentiellement les allocations plus longtemps? Et est-ce qu'ils vont plus globalement, plus facilement et de façon plus récurrente les suspendre? Donc ça, c'est effectivement un point extrêmement important qui a été annoncé par le chef de l'État. L'autre point très important, c'est sur la réforme des retraites. Une réforme assez innovante dont on n'avait pas entendu tous les détails qui ont pu être dits aujourd'hui. Alors la réforme à points dont on avait parlé lors de la campagne présidentielle, elle est à août, c'est fini ça. Mmh. Mais là on parle sur une réforme à la carte et moi j'ai entendu des petites choses assez nouvelles sur le fait qu'on va pouvoir cotiser plus vite, ça veut dire potentiellement partir plus tôt, mais ce sera notre choix. Donc ça c'est important. Point important, ce ne sera pas pour tout de suite puisqu'il a dit que les conditions n'étaient pas encore réunies. Beaucoup de choses aussi sur le soutien à l'économie, les prêts garantis qui sont prolongés, ça a été annoncé ce week-end par Bruno Le Maire, mais c'est confirmé. Et un gros soutien à la filière nucléaire française.
Alors on va y venir, Emmanuel.
On y viendra plus tard. Eh bien, je me tais.
Louis Dragnel, sur cette réforme de l'assurance chômage.
Non, moi, je trouve que sur toutes les réformes dont vient de parler Emmanuel et toutes ces mesures, alors parfois, effectivement, vous avez raison, certaines existent déjà, mais le fait d'en parler, le fait de le verbaliser, eh bien voilà, c'est éminemment politique, c'est extrêmement politique. Et moi, ce que je retiens quand même sur toutes les mesures d'assurance chômage, parce que ça touche en fait au social, ça touche à la question de l'assistanat. Vous savez, c'était le mot qui a fait débat à droite pendant de nombreuses années, avec notamment Laurent Wauquiez. Eh bien, en fait, Emmanuel Macron veut s'attaquer à ce, conceptuellement, au moins, à l'assistanat, et donc c'est quelque chose qui parle à l'électeur de droite. Donc son objectif ce soir, c'est de sonner la charge pour continuer d'essayer de fracturer la droite.
On se souvient que Laurent Wauquiez avait parlé de cancer de l'assistanat.
Absolument.
Il y a un point pour aller dans le sens de ce que dit Louis, c'est sur ce qu'il a explicité sur son contrat d'engagement pour les jeunes. Lui-même dit « je ne dis pas revenu, je dis contrat parce qu'il y a un engagement pour les jeunes ». Je rappelle cette idée, ça va être mis en place à partir du 1er mars pour les jeunes jusqu'à 26 ans qui sont très éloignés de l'emploi. Ils vont avoir une allocation de 500 euros par mois en échange d'une obligation de formation. Et là, le chef de l'État a été très clair là-dessus, sur cet engagement. Et tout à fait pour corroborer ce que disait Louis, l'idée, et là, on envoie des signaux très, très, très clair à l'électorat de droite.
Et puis les mots-clés qui résonnent très facilement, il parle de droit et de devoir. Enfin, honnêtement, il n'y a pas plus...
Et le travail qui paye plus.
Et le travail qui paye plus, exactement. Voilà. Donc clairement, voilà, l'objectif, en fait, c'est de continuer d'essayer de fracturer la droite. La droite qui essaye de sortir la tête de l'eau avec ses débats. Donc il y a eu le premier qui a eu lieu hier soir. Il y en a encore trois autres. Et en fait, ce qu'il souhaite faire, c'est essayer de convaincre tous les électeurs qui ont pu être déçus parfois par sa propre politique ou ceux qui sont plutôt modérés centre-droit, la droite libérale, en fait. Il essaye de convaincre toutes ces personnes-là qui pourraient être tentées par un ou une candidate de la droite de voter pour lui. Parce qu'en fait, ce qu'il essaye de dire entre les lignes, c'est n'allez pas tenter votre chance avec quelqu'un, un candidat LR, un candidat de la droite, dans la mesure où moi, je suis en train de porter ce que vous aimeriez entendre dans la bouche d'un de vos candidats. Donc, votez pour moi. Ensuite, clairement, pour le coup, il n'a pas cherché à parler à la droite d'Éric Zemmour. Clairement parlé du danger du repli nationaliste. Donc, toute la droite conservatrice, la droite identitaire, pour le coup, là, on voit bien qu'il ne cherche absolument pas à lui parler. Voilà. L'objectif, c'est de créer cette digue, de fracturer cette droite en deux entre la droite libérale, la droite modérée et cette droite plus conservatrice qui, de toute façon, est très anti-macroniste.
Sur les signaux adressés à la droite, Louis, et vous l'évoquiez déjà brièvement, Emmanuel, c'est sur la question des retraites que j'aimerais qu'on entende maintenant le président de la République.
Notre volonté de sauver notre modèle par répartition et d'en corriger les inégalités n'a pas changé. Et dès 2022, il faudra prendre des décisions claires. Elles feront légitimement l'objet de débats démocratiques indispensables. Mais elles devront suivre, à mes yeux, des principes simples. Travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal. Aller vers un système plus juste en supprimant les régimes spéciaux, en harmonisant les règles entre public et privé et en faisant en sorte qu'au terme d'une carrière complète, aucune pension ne puisse être inférieure à 1 000 euros. Aller enfin vers plus de liberté, c'est-à-dire permettre de partir en retraite progressivement, d'accumuler des droits plus rapidement pour celles et ceux qui le souhaitent, d'encourager le travail au-delà de l'âge légal aussi pour celles et ceux qui en ont envie. La retraite ne doit être ni une contrainte ni une angoisse, mais un choix plus libre, plus simple, plus lisible.
Louis Dragon, vous vouliez réagir sur ce que vient de dire Emmanuel Macron?
Oui, non, c'était par rapport aussi à ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Emmanuel Duteil et avec Céline Géraud. On parlait beaucoup voilà, de cette volonté d'Emmanuel Macron de parler à cette droite libérale. Et de l'autre côté, on voit qu'Emmanuel Macron cherche aussi à rassurer avec des mesures qu'il a déjà annoncées, mais des mesures de protection, notamment avec... il annonce quand même que les pensions ne pourront pas être inférieures à 1 000 euros. Il rappelle une annonce qu'il a déjà faite sur les pensions minimales aussi à destination des agriculteurs. Donc l'objectif derrière ces annonces et derrière cet équilibre qu'il essaye de trouver, c'est d'éviter aussi de passer pour le président des riches, parce que c'est quand même une étiquette qui lui a beaucoup collé à la peau au début de son quinquennat, un peu moins au milieu et pendant la gestion de la crise sanitaire. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même cette recherche d'équilibre. Et juste pour terminer sur cette allocution, ce qu'on peut trouver aussi d'intéressant, c'est qu'il se sert quand même de cette crise sanitaire pour faire passer des messages politiques avec ce vecteur extrêmement puissant qu'est l'allocution présidentielle. Il ne faut pas oublier que la dernière allocution, il avait réuni 20 millions de Français qui l'avaient écouté ou regardé. On verra demain combien de Français l'ont regardé, mais ce sera forcément des...
Mais c'était en plein été, c'était le 12 juillet.
Mais on trouvera, il y aura forcément des millions de Français. Et à titre de comparaison, par exemple avec le succès du débat des candidats de la droite hier qui ont rassemblé, c'était un succès pour LCI, pour toutes les chaînes partenaires, il y a eu 838 000 téléspectateurs. Donc voilà, on voit bien qu'Emmanuel Macron fait de la politique à travers la crise sanitaire et s'en sert pour capter le plus possible les Français.
Ouais. C'est une
c'était, oui, c'était le 12 juillet, donc c'est ça, ça fait une petite éternité finalement. Donc ça sacralise encore plus son intervention.
Il y a une autre annonce hein, ce soir qui retient l'attention de la part d'Emmanuel Macron, c'est sur le nucléaire. Hein. C'est un thème qui départage tous les candidats pour 2022, ils prennent tous position. Et bien voilà que ce soir, Emmanuel Macron confirme, annonce la relance de la construction de réacteurs nucléaires en France.
Il nous faut tout à la fois continuer d'économiser l'énergie et d'investir dans la production d'énergie décarbonée sur notre sol. C'est pourquoi, pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables.
Voilà, le nucléaire, sujet très clivant hein, pour cette élection présidentielle, cette campagne ou cette pré-campagne. Emmanuel Macron avait déjà levé un petit peu le voile, hein, Emmanuel Duteil, sur la relance de l'énergie nucléaire avec l'idée de construire des mini-réacteurs. Voilà donc cette voie choisie par le président confirmée.
Oui, mais là, c'est beaucoup plus fort.
Beaucoup plus fort, bien sûr.
Il a parlé d'EPR. C'est quoi les EPR? C'est ce qu'on essaye de construire du côté de Flamanville. C'est des super réacteurs.
Là, on ne parle plus de micro-réacteurs, bien sûr.
Là, on ne parle pas de micro-réacteurs. Et qu'est-ce que dit le président de la République? C'est que le nucléaire va rester un élément indispensable de notre mix énergétique. Alors, il n'a pas donné le nombre. A priori, ce qui circulait, c'est 6 EPR. 6 EPR, c'est énorme pour renouveler les centrales qui sont aujourd'hui et qui vont commencer à arriver au bout de leur vie. Donc, c'est un point extrêmement important, la relance de l'EPR. Et ça n'a rien à voir, effectivement, avec les petits réacteurs, parce que les petits réacteurs, ce n'est pas pour nous. Les petits réacteurs, on va en construire quelques-uns en France pour montrer qu'on sait le faire, mais on veut les vendre à l'étranger. Donc, c'est une double stratégie de montrer qu'on est leader sur le nucléaire, de garder ça, de pouvoir les vendre à l'étranger et d'en faire une filiale d'excellence. Mais dans le même temps, le message qui est envoyé ce soir, c'est vraiment un message de dire il y aura demain du nucléaire. Alors, si je suis élu, bien sûr, parce que ce n'est pas demain qu'on va lancer la première pierre du futur EPR. Mais on sait déjà où ils vont,
on sait déjà où ils vont être installés.
À Penly, ils vont être installés. Deux EPR, EDF a déjà donné les trois endroits où ils seront installés, dont Penly, où il y en aura deux. Si le gouvernement valide, bien évidemment, le plan d'EDF, qui va être obligé par ailleurs de travailler avec d'autres petits copains, puisque le gouvernement trouve que EDF a perdu un peu en compétence. Mais ça, c'est un autre sujet.
Annonce très politique également sur le nucléaire, Louis Dragnel.
Absolument, surtout que le président a fait sa mue. Il a objectivement traîné pendant des années sur cette question-là. Et il a été forcé. Il a été forcé d'abord et avant tout pour des raisons de conséquences de la crise sanitaire, avec des besoins énergétiques qui se sont fortement accrus. Et puis on est en train de basculer, je vais être un peu caricatural, mais dans le tout électrique. Et le tout électrique, plusieurs ministres me le confiaient, on ne peut pas dépendre que du vent ou de l'importation
du soleil.
Pays étrangers. Et donc, voilà, ce qui est un peu fragile. Donc voilà, le président a fait sa mue, il a complètement changé et maintenant il se rue dans le tout nucléaire. Et à droite, il est très challengé aussi sur ces questions-là. Je pense que ça a beaucoup joué.
Merci Louis Dragnel, merci à vous, Céline Géraud, Emmanuel Dutheil. On n'épuisera pas évidemment l'analyse de ces annonces d'Emmanuel Macron. Maintenant, on se retrouve dans quelques minutes sur Europe 1 pour le rappel de l'info à 21h. A tout de suite.